Bonjour à tous et bienvenue à Chant contre Chant, émission présentée sur Fréquence Protestante par l'association Profil et qui vous propose son regard mensuel sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lau, et j'aurai à côté de moi Françoise Lau. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Et Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Émission qui aura cette fois un caractère un peu thématique. Nous aborderons en effet à travers deux films un sujet à la fois actuel et brûlant, celui de la pédophilie dans un milieu religieux. Nous parlerons ainsi tout d'abord de Grâce à Dieu, le film de François Ozon, qui porte à l'écran l'affaire Prénat, ce prêtre accusé de multiples agressions sexuelles sur enfants. Nous enchaînerons avec M, film israélien de Yolan Zauberman, qui se déroule dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Beit Krap, et qui, au-delà de la pédophilie, décrit un monde où la vie est entièrement sous l'emprise de la loi religieuse. Et avant les coups de cœur habituels, nous rendrons compte de Les Éternels, le dernier et superbe film de l'immense réalisateur chinois Ya Zhangke. Bon, maintenant commencer avec Grâce à Dieu. François Ozon y porte en scène ce qu'on appelait l'affaire Prénat, du nom de ce prêtre lyonnais qui, accusé de pédophilie, avait défrayé la chronique. Tout commence en 2014, lorsque, à l'occasion d'une messe, Alexandre, marié, père de famille, 45 ans, reconnaît en officiant le père Prénat, prêtre qui, aumônier des scouts du groupe Saint-Luc à Lyon, avait de multiples fois abusé de lui quand il faisait partie de la troupe. Stupéfait de voir ce prédateur encore en activité et entouré d'enfants, il décide de ne pas se taire plus longtemps, de faire remonter l'affaire. Il rencontre le père Prénat, puis le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Devant l'inefficacité de ses démarches, il écrit au procureur, élargit son enquête, découvre que bien d'autres que lui ont été les proies du père Prénat. Certains se joignent à lui, François, Gilles, Emmanuel. Une instruction officielle est ouverte, une association secrète, elle s'appelle la Parole Libérée. La vérité va-t-elle être enfin reconnue et les coupables punis? François, je crois que tu as vu là un film important, disons.
Pour le moins, à mes yeux, c'est même un film d'utilité publique. À l'heure où l'opinion s'indigne du fléau de la pédophilie au sein de l'Église catholique, où le père Prénat est mis en examen, où le cardinal Barbarin doit répondre de son silence devant la justice, il eût été facile de faire un film à charge contre l'Église, un brûlot anti-religieux. Or, à mes yeux, ce n'est rien de tout cela. François Ozon a voulu tout d'abord mener une enquête sur les répercussions profondes des actes pédophiles sur les adultes d'aujourd'hui. Il les a rencontrés, écoutés, en particulier Alexandre, François, Gilles, Emmanuel, tous abusés dans leur enfance par le père Prénat, alors en charge des louveteaux de la paroisse. Par ailleurs, ce film, c'est aussi l'histoire d'un combat. Du combat mené en particulier par trois d'entre eux, qui décident de porter la chose sur la place publique en créant donc l'association La Parole Libérée. L'un d'eux dit dans le film « Je ne fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église » et c'est bien là le propos du film.
Oui, ben François, qu'en est-il dans ce film du silence de l'Église ?
Il est à la mesure de l'indignation de ceux qui le dénoncent, nauséabond, colossal, hors norme, dévastateur. C'est un silence qui se nourrit du déni, du mensonge et de la peur. Nous entendons le cardinal Barbarin dire lors d'une conférence de presse à Lourdes en 2016 « Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Grâce à Dieu. Un lapsus qu'il va tenter de corriger, regrettable en effet, mais comme tout lapsus, révélateur. » Barbarin est joué par François Martouret qui lui ressemble étonnamment. Il en fait un personnage dont on se demande sans cesse ce qu'il pense vraiment. Quant au père Prénat, il est joué par Bernard Verlet. Alors lui ne cherche jamais à nier. Cet homme, âgé aujourd'hui de 71 ans, semble devenu comme étranger à lui-même, un peu perdu. Il reconnaît les faits, il dit qu'il est malade. On l'entend dire « J'en ai parlé à ma hiérarchie, ils n'ont jamais rien fait ».
Alors comment fonctionne cette association, la Parole Libérée ?
C'est un site internet. Un site d'appel où ceux qui se reconnaissent comme ayant été abusés sexuellement par le prêtre peuvent se faire entendre, voire se rencontrer s'ils le désirent. Il en ressort que les victimes ont vécu hélas la même chose, mais de façon différente. Certains ont refait leur vie professionnelle, familiale, intime. D'autres, comme Emmanuel, un écorché vif, en sont brisés. François fait une demande d'apostasie. Alexandre va rester fidèle à sa foi. « Papa, tu crois toujours en Dieu ?» lui demande son fils. Silence du père, Juste un sourire un peu triste. Dernière image.
Oui, mais alors, est-ce que les autres personnes autour de cette table pensent aussi que c'est un film d'utilité publique ? Jean-Michel ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Le film est une construction très habile. C'est un docu-fiction, donc, comme tu l'as dit, appuyé sur les témoignages des membres de l'association, La Parole Libérée, et qui tire aussi sa force de la contemporanéité de la sortie du film avec la tenue du procès.
Oui.
Et la conservation, oui, bien sûr, oui. Et la conservation du nom, des noms des inculpés. Je voudrais souligner que le film doit beaucoup à un très bon acteur, à la filmographie immense, qui est Melvin Poupeau, dans le rôle d'Alexandre. Ouais. Et ce sont ses initiatives qui rythment la narration et lui donnent son intérêt. Les trois histoires de jeunes abusés sont différentes par le tempérament singulier de chacun et leur insertion familiale. Et finalement, elles forment un riche contraste qui maintient le spectateur en haleine.
En éveil, d'un bout à l'autre.
En éveil. Ouais. Et les personnages sont décrits avec nuance. Et moi, qui ne suis pas un fanatique de Ozon, oui, j'ai beaucoup apprécié ce film.
Pudeur, réserve.
Ouais. Voilà. Ah oui. Et simplement, on est impressionné, comme tu l'as dit, par le comportement du cardinal Barbarin, qui montre la réalité de la charge qui pèse sur cette institution, dont on voit qu'elle se débat le dos au mur et qu'elle n'a jamais réfléchi en profondeur à toutes les implications du problème.
Tout à fait, oui. Oui, concernant le film, j'aurais quelques petites réserves à faire tout à l'heure, mais Jacques, toi, comment tu...
j'ai un petit peu de mal. C'est un film qui est bien réalisé, sans beaucoup de surprises, sur le plan du cinéma, c'est assez conventionnel. Et alors, Françoise et Jean-Michel l'ont bien dit, l'intérêt du film, c'est vraiment de se placer du côté des victimes et de décrire leur combat de manière très réaliste et très terre-à-terre. Il n'y a pas d'effet mélo, donc... De ce point de vue, je dirais très bien.
C'est un film difficile à faire.
C'est un film qui était très difficile à faire et je pense qu'Ozon l'a très bien fait. Et l'intérêt, c'est de montrer effectivement l'impact de ces violences sur la vie des victimes sur le long terme. Donc ça c'est très bien. Alors après, la question, c'est fallait-il faire ce film juste au moment du procès ? Alors, on peut en débattre. En général, on reproche au cinéma français, contrairement d'ailleurs au cinéma américain, par exemple, d'être trop prudent et d'avoir peur de se saisir des questions d'actualité. Alors, pour une fois, ce n'est pas le cas ici.
C'est pas le cas.
Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement qu'il est plus facile en France de tirer sur l'Église catholique, surtout si elle est déjà à terre, que sur le politique ?
C'est une question quand même. Sur les... Je trouve pas
aussi, quand même. Si...
C'est pas un film à charge.
C'est pas un film à charge, mais quand même.
C'est pas un film à charge. Il parle de l'institution, mais pas des catholiques.
Il parle de l'Église, il parle pas.
C'est pas un film à charge au sens où il n'est pas effectivement un pamphlet. Mais il n'empêche que tu en ressors quand même, et tu l'as dit toi-même, avec le sentiment que ces gens-là n'ont rien fait.
Oui, mais c'est pas une attaque de la religion catholique.
Ah, c'est pas une attaque de la religion, mais c'est une attaque de la religion au sens d'institution, bien sûr.
Il parle de l'institution.
De l'institution, je crois que c'est ça.
De l'institution, mais pas de la religion. C'est tout à fait différent.
Bien sûr, mais l'institution. Mais pour répondre...
Beaucoup de catholiques ont été tellement impressionnés par cette affaire-là que c'était bien que le film vienne un petit peu...
Je crois, mais parce que pour moi, le débat... film nécessaire, film opportuniste n'est pas complètement tranché. Autrement dit, j'adhère à ce film, je trouve que ce film est bien. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté de je vais me faire quand même beaucoup d'entrées en le sortant juste à ce moment-là ?
Oui.
Je ne peux pas m'empêcher de le penser un peu.
Voilà. Je crois qu'il a fallu courage quand même à François Ozon pour faire ça, parce que je pense que...
Justement, je n'en sais rien.
Il a été refusé par beaucoup de productions, des lieux où on a dit vous ne pouvez pas tourner chez nous. Non, il a été mal reçu. Mais je crois que ce film est à l'honneur de tous les catholiques qui souffrent de ce qui se passe. C'est à l'honneur du catholicisme, de ces gens-là qui s'indignent de ce qui se passe dans leur église et qui en souffrent incroyablement. Incroyablement. Il suffit d'en parler avec eux, avec ceux-là.
Non, mais de ce point de vue-là, le film est encore une fois très très bien fait. Bon, voilà, après...
Oui, simplement, ce sont deux personnes qui sont dans le collimateur, c'est vrai, mais il y a tous les autres... on ne peut pas parler de tout, mais il est vrai que là... ça met quand même sur le devant de la scène le père Prénat, le cardinal Barbarin, et on a envie de dire... et après... Qu'est-ce qu'on en fait ?
Et puis en plus, étonnant, c'est qu'on a l'impression que le film a continué, puisqu'on était le film était à peine sur les sorties d'un seul écran, qu'on apprend que Barbarin a été...
condamné à six mois avec souci.
Qu'on apprend que le pape a refusé... à refuser cette émission pour l'instant. Je veux dire une espèce de rebondissement et d'écho.
On est dans l'actualité, on est dans le sujet.
C'est brûlant.
On ne débat pas vraiment de cinéma.
Exactement. Oui, justement, sur le cinéma, je veux dire, à différence d'un peu Jean-Michel, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai beaucoup aimé le début du film, très rapide, mené comme une enquête, avec beaucoup d'aide. J'ai un petit peu décollé à partir du moment où sont arrivés les trois autres personnages, où j'ai regretté un peu que Ozon ne se borne pas à centrer son affaire sur Alexandre et qu'avec les trois autres personnages, il dévie un peu.
Oui, d'un côté, parce qu'ils sont différents.
Ils sont très différents. Donc je pense que ça valait le coup de montrer comment justement
on pouvait réagir
de manière très différente. Oui. Donc,
comment réagissent les familles et eux-mêmes, parce que j'ai trouvé très honnête.
Dans un objectif un peu documentaire, c'était utile. Après,
j'ai trouvé très honnête la façon dont François Ozon interroge les Alexandre, François et les autres sur leur comment ils l'ont ressenti enfant. Et Alexandre dit, moi j'ai vu à un moment une réaction de fierté d'avoir été choisi par le père. Il me préférait aux autres. Et François lui disait, mais moi je trouvais c'était bien parce qu'il me faisait des câlins. J'aime bien les câlins. Et j'ai trouvé qu'il y a une grande honnêteté en même temps. C'est déchirant d'entendre ces réactions d'enfant. Quant à Emmanuel, celui qui est écorché vif, je crois qu'il est. C'est un personnage aussi qui nous touche beaucoup, qui lui est d'un autre milieu social, qui a réagi différemment. Également intéressante, Régine Mère, qui a, je crois, été gênée par l'image qu'on donne d'elle à l'écran. J'ai pas compris pour elle, parce que pourquoi elle est. C'est un personnage très.
Assez transparent, assez ambiguë, silencieuse, on ne sait pas grand-chose d'elle.
C'est une interface. Ouais, elle est chargée, elle est la secrétaire personnelle du cardinal, elle est chargée par lui d'écouter la déposition des plaignants. Ce n'est pas facile, hein. elle est empêchée quelque part.
Oui, donc on ne peut qu'inviter tout le monde à aller voir ce film pour se faire vraiment une idée. Et on va changer de milieu, on va passer du diocèse de Lyon à Israël, et on va passer du catholicisme au judaïsme ultra-orthodoxe, précisons bien. Mais le sujet, du fond, reste le même, celui des viols infligés à des enfants à l'intérieur d'un milieu religieux et par ce milieu. Mais il s'agit cette fois d'un documentaire de Yolande Zauberman, dont nous avions beaucoup apprécié antérieurement, moi, Yvan, toi, Abraham. M. Menachem Lang, acteur et chanteur que la réalisatrice avait découvert à l'occasion du film Kedma d'Amos Gitai. Menachem Lang a 35 ans. À l'âge de 20 ans et à la suite d'une enfance douloureuse marquée par des viols répétés infligés par des rabbins, il a quitté sa ville natale de Bnei Brak, capitale du judaïsme ultra-orthodoxe. Il y retourne aujourd'hui, accompagné par Yolande Zauberman. C'est ce retour dans son passé que nous fait suivre ce film, cette plongée dans le monde d'hier, avec ce que la suppose de souvenirs ressuscités comme de rencontres nouvelles. Et c'est assez sidérant, n'est-ce pas Jean-Michel ?
Oui, c'est une sidération qui dure tout le temps de la vision de ce film, qui a obtenu le prix du jury à Locarno, et vision qui est effectivement à la fois glaçante et exaltante. Glaçante parce que l'évocation de la destruction d'un enfant par un adulte est insupportable, mais exaltante aussi parce que le courage du protagoniste dans son entreprise de dénonciation du saccage couvert par la religion permet de continuer à croire en l'homme. De quoi s'agit-il ? Menachem Lang, enfant maudit, dont l'initiale du prénom donne son titre au film, a été abusé régulièrement dans son enfance alors qu'il était chantre à la synagogue. Il a grandi parmi les Haredim, les craignants Dieu. Il a fui à l'âge de 20 ans cette capitale des Juifs ultra-orthodoxe et attendu 10 ans encore pour dénoncer à la télévision ses prédateurs au prix d'un grand scandale en Israël.
Mais alors comment un tel film a-t-il pu voir le jour ?
Eh bien, une des réponses est que le film a été pour l'essentiel tourné la nuit, car il évoque le paroxysme d'une souffrance innommable. Malgré le défi apparemment insensé pour une femme de s'infiltrer dans ce milieu, la réalisatrice, bouleversée par l'histoire de M, l'a convaincue d'accepter de cheminer avec elle et dès lors de vivre sous la caméra ce retour sur les lieux du crime, cette confrontation avec son passé douloureux dans une communauté à laquelle il reste paradoxalement profondément attaché. Se déroule alors sous nos yeux une série de scènes surréalistes qui nous emmènent vers l'immeuble où le rabbin abusait de M, vers le cimetière où des centaines d'enfants subissaient le même sort, à la synagogue où il a été éduqué, violé, s'est marié et a divorcé. dans le quartier en fin de son dernier agresseur, qui l'interpelle de la rue.
Enfin, le film ne retrace quand même pas qu'une succession de traumatismes.
Heureusement, non. Il a tout d'abord, et c'est le principal, la présence humaine extraordinairement chaleureuse de Menahem, intrépide chevalier aux yeux clairs et au sourire éclatant, qui veut faire surgir la vérité et libérer la parole à n'importe quel prix, suscitant sur ses pas les témoignages des victimes. Et ensuite, l'immersion que nous permet Yolande Zauberman dans une communauté yiddishophone qui, loin d'être silencieuse, hostile et impénétrable, comme on pourrait le croire, est au contraire bavarde et chante et danse, comme dans Rabbi Jacob. Il y a enfin des moments de grande émotion que sont par exemple les retrouvailles de M avec ses parents ou le bouleversant chant religieux qu'il fait s'élever vers Dieu avec les compagnons de sa jeunesse meurtrie. Il y a surtout ces visages de l'intimité si chers à la réalisatrice qui sont offerts à sa caméra et la démonstration de l'efficacité du documentaire lorsqu'il atteint ce degré de maîtrise.
Françoise, est-ce que tu dirais encore que c'est un film nécessaire ?
Non. Non. Je dirais pas que c'est un film nécessaire parce que c'est pas un film comme grâce à Dieu, un film qui pose un sujet de société pour nous. Je dirais comme Jean-Michel que c'est un film bouleversant déjà par cette femme extraordinaire qui est Yolande Zauberman et qui accompagne ce jeune homme dans son milieu, dans ce milieu fermé qui est le milieu des chassidim. Je dirais comme Jean-Michel que c'est un film glaçant, accablant et qu'on est dans la sidération. Mais contrairement à toi, Jean-Michel, je ne dirais pas que c'est un film exaltant. Je n'ai ressenti aucune exaltation. J'ai trouvé ce film accablant. Et ce que beaucoup de critiques ont considéré comme étant un film sur le pardon, sur la réconciliation, moi, j'y ai vu tout à fait autre chose. Ce happy ending à la fin, pour moi, est terrifiant parce qu'il révèle une aliénation. Et je crois que autant le lien entre l'homme et le Dieu est quelque chose qui peut faire du bien à l'homme, autant quand ce lien devient une corde, une chaîne, à ce moment-là, l'homme est encordé, il va étouffer, il est enchaîné. Et moi, j'ai vu Menachem comme enchaîné à sa communauté d'origine, qui ne le lâche pas.
Jacques, est-ce que entre ces deux positions, toi, tu...
Ah ben, moi, en fait, je vais répondre un peu à côté. J'ai trouvé ce film émouvant, donc je ne reviendrai pas tellement sur le sujet. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est de l'avoir vu à quelques jours d'intervalle de Grâce à Dieu.
Oui.
Parce que quand on rapproche ces deux films, on se dit que les frontières entre documentaire et fiction explosent, mais alors explosent complètement. Parce que M, on a dit, c'est un documentaire, certes. Mais les techniques, en particulier les gros plans, etc., utilisées, sont les techniques de la fiction pour émouvoir le spectateur.
Et en plus, que tout se passe dans la nuit.
Oui, que ce soit dans la nuit, que le personnage principal soit lui-même un acteur qui joue quand même un peu son rôle, etc. Enfin, je dirais, il est beaucoup plus fiction que Grâce à Dieu. Parce que Grâce à Dieu, c'est exactement l'inverse. Comme François Ozon, et on l'a dit, ne voulait pas faire dans le sensationnel. Et il a très réussi. Il a introduit de la distance. Il n'y a aucun gros plan. Lui, il met sa caméra très loin. Donc, on est complètement à front renversé. On a un documentaire qui fait et qui réussit parfaitement, totalement émouvoir. Et on a une fiction qui, elle, se met en retrait pour être presque aussi objectif qu'un documentaire.
Oui, en disant sérieusement, les paroles sont vraies, les textes sont vrais, les noms sont vrais, pour bien faire montrer que c'est vrai.
Exactement. Donc, on est complètement... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu as bien les documentaires. Moi, je dis que ce n'est pas un documentaire, si ça l'est.
Non, c'est un documentaire, quand on plane dessus. Mais il est vrai que le film d'Ozon, et tu l'as souligné tout à l'heure, à mon avis, il n'est pas assez fictionnel. Il n'est pas assez fictionnel.
Parce qu'il est coincé
par le documentaire.
Oui,
celui-là,
c'est l'inverse.
Celui-là, il décolle vers la fiction, mais c'est le cas de beaucoup de documentaires, parce qu'il y a la présence du cinéaste qui, justement, fait de la création et lui donne la fiction.
Et mais là, il y a aussi l'acteur. Là, il y a aussi le personnage principal qui est acteur.
Parce que et le personnage principal est acteur, est un ancien champ.
Je vois assurément que la façon dont Zauberman, sans être là, est toujours là.
Oui, elle est là, mais on l'oublie parce que justement, la caméra est si proche des visages des personnages que...
Mais je crois qu'elle rappelle quand même très fort sur la fin qu'elle y est. Hein. Lorsqu'elle dit la phrase de Kafka que visiblement elle prend à son compte, je suis parmi les miens avec un coup couteau pour me défendre. Oui. Je suis parmi les miens avec un couteau pour me protéger. Oui. Elle ajoute, ce film est mon couteau. Comme quoi, ce film, elle l'endosse complètement, oui, bien qu'elle ne soit pas... qu'on la voit pas, quoi.
Elle est yiddishophone elle-même, et c'est son milieu, et elle est elle-même extrêmement touchée. Et moi, je t'interroge, Françoise, sur le happy end. Est-ce que tu peux dire à quoi ça correspond?
Non, je veux dire que j'ai lu un certain nombre de critiques sur ce film, et beaucoup de critiques pensent que le film se termine par le pardon et la réconciliation, et que c'est très beau.
Bon, je l'ai lu,
j'ai lu les critiques. Ah oui. Et que pour ma part, cette fin où on le voit dans sa communauté, enlacé avec les autres hommes de sa communauté, dans cette espèce de bercement ultra sensuel de ces communautés-là, oui, où les gens s'enlacent, touchent leur corps et dansent et chantent, moi, j'ai pas vu ça comme, comme quelque chose de particulièrement réjouissant. J'ai eu le sentiment qu'il retombait dans ce communautarisme. Qui enchaîne les gens. On ne peut pas en sortir.
C'est l'importance de l'enfance qui est là. Mais il n'y a pas le pardon, je ne crois pas.
Non, effectivement, moi non plus, je n'ai pas du tout senti ça comme ça. Bien, on va s'arrêter un petit peu après ces deux films sur la pédophilie. On souffle un petit peu, on mérite bien. Et on reprend tout à l'heure. Eh bien, nous allons reprendre sur Fréquence Protestante notre émission avec Les Éternels, la dernière réalisation du grand cinéaste chinois Ya Zhangke. S'il s'agit cette fois d'un film qui s'apparente nettement au film de genre, Ya Zhangke n'y abandonne rien de la terrible acuité du regard qu'il portait sur la Chine dans ses œuvres précédentes. On y suit l'histoire d'un couple, celui formé par Guo Bin, un petit chef mafieux de la ville de Datong dans le pays minier de Shaanxi, et nous accompagne Qiao, la très belle interprète habituelle du maître. Au cours d'une des rixes qui sont monnaie courante entre gangs locaux, Guo Bin est blessé, Qiao mis en prison pour avoir défendu son amant en utilisant l'arme de celui-ci. Ellipse, on retrouve Qiao sortant de prison 5 ans plus tard. Guo Bin a disparu sans laisser de traces. Elle se lance à sa recherche, parcourt des milliers de kilomètres pour cela, finit par le retrouver, profondément changé, ayant pris des distances par rapport à son milieu d'origine et infidèle à son amour. Jacques ?
Et tu as dit le film s'apparente nettement au film de genre, sans doute, mais au fond, quel genre? Parce que est-ce que c'est le film noir, qui est la référence claire de la première partie, qui nous montre Guo Bin en petit chef de bande, qui après une belle ascension va se heurter à la rivalité entre gangs locaux? Est-ce la chronique sociale, la transformation à toute vitesse de la Chine dans les années 2000, qui ferme les mines de charbon, qui oriente les chefs mafieux vers le business de l'immobilier, et cette Chine que Qiao va traverser dans la deuxième partie, comme tu l'as dit? Ou bien encore, est-ce que le film appartient plutôt au drame sentimental, l'histoire d'un couple qui se forme, qui se quitte, qui se retrouve, au fond une histoire éternelle et qui traverse pour le coup tout le film?
Il est vrai que le film noir vire vite et n'apparaît ensuite à être un prétexte à une histoire d'amour.
Oui, et cette histoire d'amour est intéressante parce qu'il y a un effet de bascule dans le film entre Qiao et Guo Bin. Dans la première partie, Qiao, au fond, n'est que la petite amie de Guo Bin. Elle est jolie, elle le suit dans toutes ses folies, elle est respectée par la bande, mais c'est lui le chef. Alors que les 5 années passées en prison vont la durcir et la deuxième partie, la voit beaucoup plus prendre son destin en main. Elle arrive à survivre seule dans des situations difficiles, elle n'hésite pas à menacer, à escroquer. C'est elle qui mène l'action, qui recherche Guo Bin, qu'elle aime toujours. Et en face, on a un Guo Bin qui est plutôt faible, lâche, qui l'a abandonné au profit d'une autre et qui n'ose pas lui dire. Et alors, dans la dernière partie, 10 ans après, ça s'accentue encore, puisque ça nous montre Qiao en tenancière respectée d'une maison de jeu, qui recueille un Guo Bin qui n'est plus qu'une épave, un ivrogne en fauteuil roulant. Elle est restée fidèle à la pègre à l'ancienne, lui a cherché à suivre l'air du temps et s'est fait un peu broyer par la machine. Et si elle le recueille, on a l'impression que c'est plus par fidélité à elle-même que par véritable amour.
Et dans toute cette histoire très, très bien construite, où retrouve-t-on la patte de Yangtze ?
Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que Jasenke, à la fois, on le reconnaît très facilement, ses films, et en même temps, il se renouvelle. C'est jamais exactement la même façon de filmer. Alors, dans ce film, on va retrouver, par exemple, la région des Trois Gorges, de Still Life. On retrouve les moments d'action de la pègre de Touch of Sin. On retrouve la construction en trois périodes séparées par de longues années d'intervalle de Au-delà des montagnes, les longs voyages à travers le pays, bien sûr la volonté de témoigner des profonds bouleversements que connaît la Chine. Mais la photographie, enfin pour moi, j'ai trouvé très différente. Aux couleurs crues, aux rouges flamboyants de ces deux derniers films, Touch of Sin et Au-delà des montagnes, succèdent des tons beaucoup plus ternes, plus froids, une image moins éclatante, plus triste, qui crée une atmosphère un peu mélancolique. Et le point culminant de cette espèce de réalisme du quotidien est atteint avec les retrouvailles des deux amants dans la chambre peinte en jaune d'un hôtel minable. L'éclairage est blafard, à l'unisson des sentiments des personnages qui n'ont en fait plus rien à se dire. Et ça, je trouve que c'est quand même du très grand cinéma.
Du grand cinéma. Tout le monde est d'accord, Jean-Michel ?
Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord.
Ah, chouette.
Heureusement.
On est tous d'accord.
Je ne partage pas du tout ton enthousiasme, mais je suis très sensible à la façon tout à fait pertinente dont tu as décrit l'histoire et ces périodes. Mais je suis quand même attristé parce que je tiens l'auteur, comme toi, pour l'un des plus grands cinéastes chinois de ce temps.
Et tu as été déçu.
Et j'ai été extrêmement déçu par ce dernier film qui m'a laissé de bronze et m'a ennuyé colossalement. Pourquoi ? Parce que l'histoire se déroule sur trois époques et dans trois zones géographiques, comme tu l'as dit, distantes de des milliers de kilomètres. Mais cette méditation géographico-temporelle esquissée ne suffit vraiment pas à capter mon attention. Allons vers le couple de la pègre, cette jeune femme énergique et aimante, éprise d'une petite frappe médiocre et sans intérêt. Mais dès le début, il est nul, ce gars-là. Elle va en prison à sa place. Et tout ça, c'est très banal. Comme les paroles de la nouvelle compagne de Bim lorsqu'elle le retrouve, on ne commande pas ses sentiments. Ben oui, quand l'amour est mort et que tout est fini, comme chantait la chanson. Enfin, pourquoi s'extasier sur la soi-disant pérennité des valeurs traditionnelles, comme l'ont fait certains critiques, malgré les transformations de la société qui nous donne à voir ? Tout ça me semble frapper au coin de la banalité et je ne trouve rien d'intéressant dans ce film.
On retrouve quand même, c'est pour ça que tu as besoin de la banalité, c'est qu'on retrouve quand même les grands thèmes de Yang Zhongxue. François, toi...
Moi j'ai beaucoup aimé le film, j'étais ravie en sortant du film. Moi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai aimé la limpidité du récit, j'ai aimé le personnage de Kiao qui est très complexe, je ne m'attendais pas du tout à toutes ces métamorphoses. Ce changement émotionnel m'a beaucoup séduite. Il en fait une héroïne tragique, un espèce de rocher indestructible. Moi j'étais surprise. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la tristesse de cette histoire qui, comme tu le dis, Jacques, est accompagnée par des éclairages, des paysages, la séquence de la rupture dans la chambre d'hôtel. Je trouve que c'est une réussite extraordinaire. Une histoire qui dit que rien ne dure. Et alors, ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il a inversé les stéréotypes. La pègre a un code de l'honneur. On se doit d'être fraternel, d'aider les autres. J'ai beaucoup aimé cette idée de tous les alcools qui sont déversés dans une grande bassine, tout mélangé, tout le monde boit ses alcools à grande gorgée. Donc la pègre, c'est le code de l'honneur, et puis l'État, c'est le business, c'est la quête effrénée de l'argent, c'est le capitalisme.
Oui, c'est
j'ai aimé qu'il ait tout mis à l'envers. Ah non, moi je me suis régalée dans ce film.
Peut-être pour aller dans le sens de Jean-Michel, je pense que Au-delà des montagnes était plus fort, c'est-à-dire qu'on était vraiment saisi
considérablement.
Parce que c'est aussi bien les scénarios, etc. Là, effectivement, c'est plus classique d'une certaine manière. C'est plus, on a déjà vu ça, comme tu dis. Et du coup, je suis pas allé jusqu'à m'ennuyer comme tu dis, mais c'est vrai qu'il y a pas la tension qu'on avait surtout dans Au-delà des montagnes. Déjà dans Touch of Sin surtout. Au-delà des montagnes, c'était déjà un petit peu plus.
Ça s'étend sur 7000 km et ça dure pendant 18 ans. Donc forcément, on a un peu de temps s'ennuyer.
Il y a de quoi s'ennuyer, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas très nouveau. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui. Puis c'est une histoire dont les codes, la pègre a son honneur, bien sûr.
C'est vrai pour moi.
Scorsese nous montre ça aussi.
Oui, très bien. D'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que pour moi, Touch of Sin a marqué l'apogée de.
Oui.
Mais bon,
chaque cinéaste
c'est quand même pas
ses autres. Celui-là, ne le déshonore pas du tout, je trouve quand même. Et puis moi, j'ai très sensible, un peu dit, François, comme François le dit, à cette atmosphère de désenchantement. oui. qui règne dans le film, qui est caractéristique d'ailleurs du film. Les gens que tous ces films sont dans le signe du déchantement, mais celui-là oui. particulièrement.
Bientôt tout ceci ne sera que ruine sous l'eau. C'est pas beau ça dans son film, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il a bien réussi à mettre en image. Il a trouvé les éclairages, il a trouvé les paysages pour illustrer. Bientôt, tout ceci ne sera plus que ruine sous l'eau.
Les trois gorges, on les a déjà vues.
Oui, mais c'est magnifique. Oui, c'est les chefs-d'œuvre, je suis d'accord. C'était très beau, il revient. Moi, je lui pardonne. J'aime bien revenir, d'ailleurs, ça ne me gêne pas.
Bien, ben, on va peut-être passer au coup de cœur. On va commencer avec Jean-Michel, qui va nous parler du dernier film de Xavier Dolan.
Ah oui, on ne peut pas laisser passer le dernier film de Dolan. On ne le présente plus, cet enfant terrible de Montréal qui a maintenant 30 ans et 7 longs métrages à son actif depuis « J'ai tué ma mère ». Vous vous rappelez l'avant-dernier, « Juste la fin du monde
oui. »,
d'après la pièce de Jean-Luc Lagarce. Ici, l'histoire est celle-ci. 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, mort précocement d'une overdose, un jeune acteur, Rupert Turner, se remémore à travers l'interview donnée à une journaliste, la correspondance qu'il a jadis, lorsqu'il était enfant, entretenue avec cet homme célèbre, au destin brisé par son homosexualité. De même que l'impact que ces lettres échangées ont eu sur leur vie respective. Le scénario est bourré de pistes, il est très ambitieux et l'objet fini, le film qui est de 2 heures, souffre probablement d'un montage définitif ayant dû diviser par 2 la durée initiale du film qui était de 4 heures. Et c'est donc responsable de la moindre importance accordée au contenu des lettres échangées. Ceci dit, Dolan y a mis beaucoup de lui-même et se livre à une réflexion sur la célébrité, ses mirages et ses limites, avec des va-et-vient entre les deux histoires de Donovan et de Rupert, tissés des mêmes thèmes chers au cinéaste, relation à la mère, poids du secret de l'identité, peur de l'humiliation, avec pour ses fans dont je suis, l'énergie, le lyrisme, les scènes mélodramatiques appuyées sur une musique puissante et surtout un climat émotionnel et une empathie avec ces personnages qui sont bien particuliers à Dolan.
Oui, je croyais que tu voulais réagir.
Oui, ben, moi, il faut quand même dire à nos auditeurs que ce film a été très généralement complètement descendu par la critique. Moi, j'avoue que je ne partage pas ces critiques. Je suis plutôt d'accord avec Jean-Michel. Il y a certaines choses qui sont peut-être moins homogènes que dans les autres Dolan.
C'est sûr.
Il y a un usage un peu traditionnel, un peu artificiel de l'interview, de la voix off, etc., qui affaiblissent, à mon avis, un peu la tension du film. Ouais. Mais globalement, on a quand même l'émotion dans ce double récit autobiographique, parce que c'est assez complexe entre ce jeune garçon et ce jeune acteur au succès trop rapide, qui, en fait, les deux personnalise Dolan. Donc moi, je trouve
oui,
que c'est un film...
Quand même,
c'est un film qui est très intéressant. Malgré la critique, c'est un film intéressant.
En attendant, Mathias et Mathieu.
Bien, on va en parler maintenant des témoins de Lansdorf, Françoise.
Alors, c'est un film israélien de Amichai Greenberg, qui a été plusieurs fois primé en festival, qui se présente comme un documentaire, mais en fait, c'est une fiction historique qui repose sur le massacre de Rechnitz en Autriche dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. C'était en mars 1945. Les nazis ont massacré 200 juifs, puis les ont jetés dans une ou plusieurs fosses communes aux abords du village. Ce n'est pas un film de plus sur la Shoah, car ici les images sont au service d'une réflexion sur les ravages des non-dits et autres secrets et mensonges, sur l'identité de celui qui découvre avoir été trahi. En l'occurrence, une réflexion sur la judéité. Donc voici Yoel, un historien juif orthodoxe chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Au début du film, il se voit assigner un ultimatum lors d'un procès que lui fait la société immobilière autrichienne chargée de travaux de construction dans le périmètre supposé des fosses communes. Il est sommé de présenter dans les 8 jours, ça fait longtemps qu'on l'attend, des preuves tangibles de l'existence de ces fosses, jusque-là non identifiées. Sinon le site, lui dit-on, sera bétonné. C'est alors que les fameux témoins, les habitants du village incriminé montrent jusqu'où peut aller le déni et le refoulement. Ils ne savent rien, ils ne disent rien, ils n'ont jamais rien su. Et pour ajouter au dossier du déni, Yoel va découvrir avec effroi, au cours de son enquête, que sa mère n'est pas juive. Et que donc lui, qui a fondé son identité sur l'observance religieuse, n'est pas juif. Sa mère, qui a effectivement été internée en camp de concentration, lui refuse toute explication, on ne parle pas de ces choses-là. La sœur de Yoël refuse, elle, de se laisser émouvoir par la révélation qui, dit-elle, ne change rien à sa vie. Par contre, Yoël va couper sa barbe, il va supprimer ses papillotes, il va revêtir des vêtements civils comme tout le monde et poursuivre avec obstination sa recherche de l'endroit de la fosse commune.
Bien, Françoise, Jacques,
tu l'as vu, toi, je crois, Jacques.
Tu as vu ce film aussi.
Oui, j'ai vu ce film, mais il y a déjà quelques temps, je l'avais vu à Venise en 2017. Moi, c'est un film que j'avais trouvé un peu didactique et ennuyeux. Le héros est un peu parfois difficile à suivre dans son entêtement, mais qui est intéressant, comme tu l'as dit, par deux choses. C'est cette réflexion sur la mémoire et puis cette réflexion aussi sur la transmission de la judaïté par les femmes. Donc, un film que je dirais pas qui m'a enthousiasmé, mais qui est solide.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences du non-dit.
Oui,
les Allemands disent Totschweigen, se taire, c'est tuer l'autre.
Oui, et puis l'idée aussi que jusqu'où peut-on aller pour conserver le souvenir, la mémoire, alors que justement les témoins sont en train de disparaître, parce que c'est aussi ça qui est au cœur du film.
Oui, c'est un film qui passe une fois de plus problème fondamental de la mémoire et la conservation de la mémoire.
Amiraï Greenberg a mis 12 ans à le faire, ça lui tenait au cœur. Ouais.
Et maintenant, on va parler de Cybèle. Enfin, c'est un film qui a été salué très, très fort par la critique. Jacques, toi, tu voulais parler de Cybèle.
Oui, alors Cybèle, donc, c'est une réalisation d'un couple, le français Guillaume Giovannetti et la turque, je vais rater la prononciation, Tchala Zengirji, qui travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années et qui ont réalisé 9 documentaires et plus récemment, donc, 3 fictions. Alors, Cybèle est le premier film dans lequel ils font appel à des acteurs professionnels, mais ils sont restés fidèles à la méthode qu'ils utilisaient quand ils réalisaient des documentaires. Ils se sont immergés, en fait, pendant 2 ans dans le village où se passe le film, avant, en fait, de construire un scénario et de commencer à filmer. Donc, Cybèle est une jeune femme qui vit avec son père et sa sœur dans un village perdu dans les montagnes du nord-est de la Turquie, près de la mer Noire. Cybèle est muette et utilise une ancienne langue sifflée pour communiquer avec les habitants qui la rejette évidemment à cause de son handicap. Alors sans doute parce qu'elle est différente, elle jouit d'une certaine liberté, que lui tolère son père, et passe ses journées dans la forêt. Et dans cette forêt, elle décide de chasser le loup, qui est une menace et empêche les femmes d'aller dans la forêt. Enfin, c'est peut-être une raison que les hommes donnent pour que les femmes n'allent pas dans la forêt. Elle pense que tuer le loup lui donnerait un prestige qui l'intégrerait dans la société des femmes dont elle est rejetée. Et un jour, dans cette forêt, Cybèle rencontre un fugitif. Elle le soigne et, évidemment, elle en tombe amoureuse. Et cette histoire d'amour secrète va la conduire sur la voie de l'émancipation. Mais, évidemment, l'ordre social est quand même très pesant et cette émancipation ne va pas se faire sans douleur. Donc c'est un film qui est entre le documentaire et le conte, où l'on trouve le loup, la grand-mère et un chaperon rouge qui a un peu grandi. Le scénario dresse le portrait d'une jeune femme qui résiste aux coutumes ancestrales, mais il est aussi le prétexte à nous montrer la vie et la force des traditions dans un village reculé de Turquie. Donc c'est un film assez dépaysant, intéressant, même si on peut trouver parfois des personnages secondaires un peu caricaturaux, et qui a donc reçu notamment le prix du jury œcuménique au festival de Locarno.
Oui. Forcément, je n'ai pas beaucoup moins apprécié ce film que toi, mais Jean-Michel voulait en parler aussi, réagir à ça.
Oui, moi, enfin, je suis comme toi, je n'ai pas beaucoup apprécié ce film, parce que d'abord, il faut accorder une certaine créance et un crédit au scénario, qui est tout à fait exotique, mais c'est quand même une histoire à dormir debout.
Oui, absolument, il ne tient pas la route.
Il faut bien le dire, pour moi, il ne tient pas la route.
C'est quoi, c'est les sifflements qui...
Oh ben, le muet, sifflement, on aurait peut-être pu faire
le
une
sifflement
histoire.
Est une réalité, hein. Il y a eu 80 peuplades, semble-t-il, dans le monde qui sifflent.
Ça ajoute une complexification, et je pense que l'histoire, à la fois sentimentale et de l'édification et de la transformation, ça aurait été aussi bien si elle avait parlé, elle avait pu expliquer un peu aux spectateurs ce qui se passe.
Mais là, c'est qu'ils sont partis, effectivement, du fait que c'était un village où ils sifflaient.
Oui, un village siffleur. Oui, mais enfin, c'est
peut-être là où, effectivement, le côté partir du documentaire pour faire une fiction a peut-être ses limites.
Ça nuit, à mon avis, ça nuit au scénario. Bon, le fugitif, c'est un brave garçon, alors on peut tout à fait élaborer sur ce qu'il est.
Un déserteur.
Un déserteur, peut-être, ou un...
Bah,
ou
à mon avis, le fugitif, il est aussi là pour... Kurde, non, mais bon, il est aussi là pour montrer une partie du visage de la Turquie, hein, c'est clair.
Mais vraiment, moi, je n'ai pas accroché.
C'est d'une naïveté, parfois, d'une naïveté.
Oui, moi, j'ai
c'est un peu naïf, comme tous les contes.
Mais un conte a une signification, et là, je n'ai pas compris la signification du conte. Essayer de réfléchir, mais j'ai pas trouvé.
Voilà, vous avez été moins séduit que le jury œcuménique de Locarno.
Ah oui, c'est vrai. Prénatement.
Bien, ben, moi, je voulais parler d'un film, du dernier film de Manon Jacquot, qui s'appelle Dernier amour, et qui parle de Casanova. Parce qu'après bien d'autres, Jacquot s'attaque au personnage de Casanova. Son film commence en 1793 dans le château de Duchkov, en Bohême, où Casanova, vieillissant, il a 73 ans, écrit ses mémoires. Interrogé par une blonde visiteuse, il raconte celle de ses aventures qui lui a laissé un souvenir particulièrement fort. Débute alors un long flashback. On se retrouve 30 ans plus tôt à Londres. Casanova y est seul, étranger. La photo crépusculaire de Christophe Bocarde rencontre admirablement du climat intérieur du séducteur que l'on sent désenchanté, vulnérable. Vulnérable entre autres à cette femme qu'il croise et remarque une première fois, puis une deuxième qu'il rencontre enfin. Elle a 17 ans. Elle s'appelle Marianne de Charpillon. Elle n'est pas de la première vertu. Mais attention, l'avertit un ami. Avec elle, il faut payer après. Avertissement insuffisamment pris en compte, peut-être, mais peut-être aussi la fine guêpe a-t-elle le dard trop aigu pour la cuirasse fragile du séducteur à ce moment-là de sa vie. En tout cas, elle sait admirablement utiliser ses armes. Elle connaît les règles de la manipulation et jouant du charme, de l'ambiguïté, de l'autorité qu'a su lui donner Stacy Martin. Elle ne va pas cesser de se promettre et de se refuser, jusqu'à ce que, fou de frustration, Casanova finisse, comme elle le veut, par l'aimer autant qu'il la désire. C'est-à-dire jusqu'à la passion, et presque jusqu'au suicide. Bon, on est loin là des images de marivaudage associées facilement au siècle du libertinage. Ici, la chair est triste, le plaisir absent ou morne quand rencontré. Benoît Jacquot nous offre le portrait d'un Casanova vieillissant qui, à travers l'échec douloureux de ce dernier amour, donne de lui-même la représentation d'un héros à bout de course. Et ceci avec une nostalgie un peu désespérée, superbement rendue par Vincent Landon, que dans ce rôle on pouvait s'étonner de trouver. Et il apporte une solidité rugueuse et un refus de la séduction entendue, qui ne fait que rendre plus humain, plus profond, le personnage de Giacomo Casanova, vu par Benoît Jacquot. Alors François, tu avais...
Moi je partage vraiment ce que tu dis, donc c'est pas la peine que je le répète. J'ai été touchée par le film, parce qu'il correspondait pas du tout à l'image que je pouvais me faire de Casanova. C'est un beau film triste, avec un travail sur les éclairages et les décors dans ce vieux château perdu au fin fond de la Tchécoslovaquie. C'est très beau, on en sort pensif de ce film et on est très satisfait de l'avoir vu.
Oui, moi, enfin, ce film n'a pas été très, très bien reçu par la critique, et c'est dommage, parce que moi, vraiment, je trouvais que c'est un beau film triste.
Oui,
voilà.
Un beau film triste.
Mais je crois qu'il est venu le temps de nous quitter sur Fréquence Protestante, mais avant de le faire, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, réagissez, écrivez à radio@fréquenceprotestante.com pour donner vos réactions. Et pour l'instant, merci à Françoise, merci à Jean-Michel, merci à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mois prochain.